Ainsi donc, ce sujet merveilleux qui nous occupe aujourd'hui, la vie de la foi vécue, la foi dans ses effets, la foi dans ses opérations vues par des exemples, comporte deux parties. D'un côté, cette longue liste de témoins d'Ancien Testament, puis un long chapitre, et puis, de l'autre côté, un témoin. Celui qui est appelé le témoin fidèle et véritable. Et, sans doute, il y a dans ces trois versets qui commencent au chapitre 12, un sujet que nous ne devons pas minimiser. Nous sommes beaucoup attardés sur le début du chapitre. Le sujet est vaste. Nous serons obligés de parcourir cette fin du chapitre 11 beaucoup plus rapidement, car c'est cette conclusion que forment ces trois versets du chapitre 12 qui présentent pour nous l'exemple suprême. Celui qui est l'objet de la foi, qu'il s'agisse de la création, qui nous a arrêtés ce matin, c'est lui qui a appelé toute chose à l'existence, c'est lui. Qu'il s'agisse de la foi dans le sang rédempteur, c'est lui qui a versé le sang. Qu'il s'agisse d'un enlèvement prochain, comme pour Enoch, c'est lui qui va nous enlever. Qu'il s'agisse des jugements sur la terre, des témoignages que nous avons à rendre à ce sujet, comme Noé, et de la justice qui est selon la foi, l'héritage de la justice qui est selon la foi, c'est lui le juge, et c'est lui le roi souverain, le roi de justice et de paix. Qu'il s'agisse ensuite même de toute cette vie d'Abraham, c'est lui le sujet de la foi. Tout particulièrement la semence d'Abraham, c'est lui. Mais dans ces trois versets du chapitre 2, ce n'est plus l'objet de la foi, c'est l'exemple de foi. Exemple merveilleux, exemple au-dessus de tous les autres, le modèle, le seul. Et tous les autres n'étant que des imitations du vrai modèle. Et puissions-nous, selon les expressions que nous avons là, considérer avec attention celui-là. Mais nous pouvons bien rapidement jeter un coup d'œil sur la suite du chapitre 11. Nous avons vu Abraham appeler et répondant par une entière obéissance. Nous avons vu Abraham exercer dans l'attente de la réalisation d'une promesse, la promesse d'une postérité. Et nous voyons sa foi communiquée à sa compagne et la réponse de Dieu. Nous voyons au début de notre lecture Abraham éprouvé. Une épreuve extraordinaire. C'était toutes les promesses même de Dieu qui étaient pour ainsi dire mises en cause. Celui qui était l'objet des promesses, la semence en qui toutes les promesses devaient se réaliser, Dieu l'appelait à l'offrir en sacrifice. Qu'est-ce qui allait primer? Ah, là se montre la pureté, l'excellence de la foi du patriarche. Ce ne sont pas les promesses qui passe avant tout. Avant tout, c'est celui qui a promis. Celui qui a promis, il accomplira certainement, quoi qu'il en soit. Et nous voyons là la victoire, pour la seconde fois, nous voyons là la victoire de la foi en présence de la mort. La naissance d'Isaac était déjà une victoire sur la mort. C'était le corps déjà amorti que Dieu tire cette vie semence de vie pour une multitude. C'est d'un fils offert en sacrifice que Dieu opère. Il opère en résurrection, en image en résurrection. Nous avons trouvé que Sarah avait estimé fidèle celui qui avait promis. Elle l'avait estimé fidèle et c'est là sa foi récompensée par la naissance d'Isaac. Et nous trouvons à nouveau Abraham qui fait une estimation. Il estime, verset 19, que Dieu pouvait le ressusciter même d'entre les morts. Et nous discernons mal ce qu'il y a d'extra, nous qui sommes familiers avec cette résurrection d'entre les morts. Le chemin de la résurrection entre les morts ayant été frayé par notre Seigneur, nous calculons mal ce que ce pouvait être pour un patriarche, une telle foi, et qui envisageait cette résurrection, non pas une résurrection finale, non pas cette attente d'un avenir pour tous les saints qu'il avait soutenus comme pèlerins le long de son chantier, mais de la résurrection d'entre les morts. Et en figure, il reçoit de là. Que de fois nous sommes arrêtés sur ce chapitre 22 de la Genèse, image remarquable de l'amour infini d'un Dieu qui donne son Fils, seul unique, celui qu'il aime. Ici, ce que nous avons, c'est Abraham, non pas comme type, mais comme homme. Éprouvé. Et de quelle épreuve? Ton Fils, ton unique. Celui que tu aimes, l'héritier des promesses, Isaac, offre-le en sacrifice. Et nous savons de quelle manière Abraham se lève, obéit, il n'y a aucune hésitation. Ah, cette épreuve de la foi dont on nous a parlé ce matin, comme le resplendit là, comme l'or est trouvé pur. Cela ne peut avoir lieu qu'après déjà une carrière de foi. C'est l'épreuve extrême qui couronne une vie de foi. Isaac bénit Jacob et Ésaü à l'égard des choses à venir. Nous passons rapidement. On l'a souvent dit, jamais nous n'aurions choisi cette scène de la vie d'Isaac qui nous apparaît au contraire comme manifestant les tristes penchants du patriarche pour les satisfactions charnelles. Mais comme Sarah a été réveillée à un certain moment, elle eut peur. Il y a eu pour Isaac cette frayeur quand il a vu dans ce qui venait de se passer la main de Dieu. Et il bénit. Selon Dieu, il met de côté ses préférences. Il est de nouveau, en un instant, rendu, lui, l'homme dont la vue était tellement émoussé, il reçoit une vue spirituelle, et il bénit Jacob et Ésaü, à l'égard des choses à venir. Un voile se lève devant lui. La claire perception des choses à venir accordée par Dieu à la foi. Pour Jacob, c'est la même chose. Ah! Il bénit, termine sa vie. Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph. C'est la scène dans laquelle il avait trompé son père qui se renouvelle. C'est celle-là que le Saint-Esprit remet en mémoire ici. Et Jacob apparaît là, dans tout le jugement de lui-même. Pour lui aussi, les choses deviennent claires. L'homme qui avait marché en boitant, et non pas seulement physiquement, mais en boitant tout au long de sa vie, ce n'est pas un Enoch. Dieu l'a soutenu, mais combien il est loin d'avoir marché de franche allure à côté de son Dieu. Mais quelle fin! Alors nous aurions dit, bien, Jacob, en mourant, bénit ses 12 fils, la magnifique prophétie du chapitre 49. Non. L'Esprit de Dieu relève cette scène intime où Jacob bénit chacun des fils de Joseph. L'évocation du jour où lui avait voulu ravir le droit d'aînesse à son frère et où maintenant, en pleine connaissance des choses, il croise à dessein ses mains, il sait ce qu'il fait, il est dans la communion de son Dieu. Un mot sur Joseph. Il y a quelque chose de remarquable dans Joseph. Jacob a été enterré, a donné les ordres pour être enterré dans le pays de la promesse. Et il a été enterré aussitôt dans le pays de la promesse. Joseph donne des ordres touchant ses os. Et il fait mention de la sortie des fils d'Israël à un moment où il semblait que c'était la pleine prospérité et que sous sa protection, le peuple prospérait là, dans ce pays magnifique, ce pays du Goshen, ce pays qui leur convenait si bien. La foi intelligente. Ils étaient intelligents à l'égard du sort de ses frères. Et comme Jacob, il désirait être enterré dans la terre promise. Il ne voulait pas que ses os restent en Égypte. Il voulait ressusciter sur la terre de la promesse, sur la terre qui lui était acquise. Mais il ne demande pas, comme Jacob, à être enseveli aussitôt. Il donne des ordres afin que ses os restent là en Égypte aussi longtemps qu'ils resteront ses frères. Joseph est un type remarquable de Christ à bien des égards, mais ce qui brille chez lui, dans tous les derniers chapitres de sa vie, c'est cet attachement de cœur à ses frères, attaché à ses frères, type de Christ en cela. Il ne voulait pas être séparé d'eux. Les fils d'Israël demeuraient en Égypte pendant 400 ans, que ses os y demeurent avec eux. Les fils d'Israël devaient errer pendant 40 ans dans le désert, que ses eaux cheminent avec le peuple d'Israël pendant ces 40 ans, partagent avec eux les traites du désert. Jusqu'au jour où enfin le peuple serait introduit là dans le pays de sa possession, et là alors enfin il pourrait reposer, non pas dans la caverne de Macpéla, c'était pour ainsi dire réservé aux trois patriarches, mais dans cette terre de Sichem, qui spécialement lui avait été donnée à lui comme héritage par Jacob. Il y a chez Joseph cette foi qui saisit les gloires de la résurrection, qui veut que ses os reposent sur la terre de la possession pour être bien là, pour ressusciter avec ses frères. Au jour où luirait l'aube de la résurrection pour eux tous. Mais il voulait y être avec ses frères. Et il est là, dans cet exemple, un modèle non seulement de foi, mais d'amour lié à la foi.
J'aimerais ajouter quelques mots au sujet de Jacob. Ce n'est pas nous qui l'aurions mis dans la nuée de témoins, mais la parole nous étonne toujours parce que c'est la parole de Dieu. Et je me permettrai de faire quelques remarques au sujet de ce choix. Lorsqu'il dit à Joseph, tes deux fils, Manassé et Ephraïm, sont à moi, parce qu'ils devaient constituer le peuple, les 12 tribus d'Israël, Lévi étant destiné à servir l'Éternel, servant d'héritage à l'Éternel. Alors, nous voyons ce discernement spirituel de Jacob qui choisit Ephraïm au lieu de Manassé. Manassé était l'aîné, le premier-né. Et pour ce faire, il croise ses mains. Joseph est obligé d'intervenir pour lui dire que ce n'est pas ainsi. Mais Jacob, qui ne voit plus, dont les yeux sont affaiblis, a saisi la pensée de Dieu. Et il croise ses mains et c'est Éphraïm qui est béni le premier, qui reçoit la première des bénédictions. Qu'est-ce qui nous prouve que le choix de Jacob était le choix de Dieu? Tout simplement, lorsque nous lisons la fin de la Genèse, ou lorsque nous lisons dans le Moïse, lorsqu'il parle des tribus, il peut dire les myriades d'Éphraïm et les milliers de Manassé. Lorsque les tribus étaient en marche, il y avait quatre bannières. La bannière de Judas, celle d'où devait naître le Messie, la bannière de Ruben, d'Éphraïm et de Manassé. Chaque bannière ayant trois tribus groupées ensemble. Ce sont les myriades d'Éphraïm, ce sont les milliers de Manassé. La fin de Jacob est de toute beauté, c'est la fin de l'adorateur. Son bâton est mentionné dans son retour, lorsqu'il devait rencontrer son frère, et qu'il prenait astucieusement toutes les dispositions pour trouver la faveur de son frère Ésaü, que Dieu avait déjà préparé à recevoir son frère Jacob. Mais alors, chers amis, il parle de sa pauvreté lorsque il y a eu cette rencontre avec Dieu avec à Bethel, avec un maigre bagage. Il peut rappeler de son bâton, j'ai passé ce torrent avec mon bâton. Et il termine comme un pèlerin et voyageur avec un bâton pour adorer. C'est la fin d'une expérience, d'une vie longue, peut-être tumultueuse, mais où brille la foi de Jacob et qui, à cet égard, est pour nous un exemple remarquable, non seulement de discernement spirituel, mais au fond, ce que Dieu cherche, ce n'est pas de l'adoration, ce sont des adorateurs, ce que son cœur a cherché, des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité.
Poursuivons, un peu rapidement, pressé par le temps, Moïse. Moïse étant né, il fut caché 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et ils ne craignirent pas l'ordonnance du roi. Voilà encore l'intelligence, la foi. Ils virent que l'enfant était beau. Tous les parents trouvent l'enfant beau. Mais le chapitre 7 des Actes nous précise, dans la bouche d'Étienne, une beauté de Dieu, divinement beau. Il discerne que chez cet enfant, il y a quelque chose de particulier. Le sceau de Dieu est sur lui. Et leur foi saisit cela. Et leur foi les a franchis de la crainte du roi. Ils ne craignirent pas l'ordonnance du roi. C'est l'un des effets de la foi, d'affranchir de la crainte des hommes. Nous trouvons cela pour Moïse. Et ils ne craignirent pas l'ordonnance du roi. Nous trouvons cela pour Moïse lui-même. Nous trouvons que il sortit d'Égypte, il quitta l'Égypte, ne craignant pas la colère du roi. Verset 27. La foi met toute chose à sa place. Dieu tout proche. Les hommes, les difficultés derrière. La crainte bannie du cœur, la pleine assurance en Dieu. Devenu grand, Moïse choisit. Oh, combien de fois nous sommes arrêtés sur cette suite de verbes touchant Moïse. S'il avait regardé aux circonstances, il aurait pu penser que Dieu l'avait établi là, fils de la fille du Pharaon, pour exercer une influence bienfaisante en faveur de son peuple. Il semblait que, à l'œil humain, que Dieu avait ainsi tout dirigé et placer Moïse dans une telle position pour le bien de son peuple. Et Moïse choisit, Moïse estime de façon toute différente et selon Dieu. Et cela nous est une grande leçon. Nous avons souvent tendance à nous laisser guider par les circonstances. Il y a souvent dans nos conversations des expressions telles que celle-ci, « Eh bien, le Seigneur ouvre la porte, le Seigneur ferme la porte. » Et nous sommes bien disposés à trouver dans les circonstances favorables un indice que la volonté de Dieu nous conduit de telle manière. Est-ce que nous sommes conduits par les circonstances? Elles font partie des choses qui se voient. Elles ne sont pas du tout du domaine de la foi. Comment sommes-nous conduits? Nous sommes conduits par la parole de Dieu. Ah, alors là, là nous trouvons dans le domaine de la foi. Là, c'est bien le domaine de la foi, la parole de Dieu. L'obéissance, la recherche, la volonté de Dieu dans sa parole, dans la dépendance. Quel exemple donne Moïse? Ah, il balait toutes ces circonstances favorables et il choisit. Avant de choisir, il refuse. Les circonstances sont là, favorables. Mais c'est la cour du pharaon, mais c'est le monde. Et quelques paraissent, quelques favorables même pour le chemin, que paraissent le monde, ce qui est dans le monde, ce n'est pas le chemin du Père. C'est opposé. Et l'énergie de la foi de Moïse le fait refuser. Il n'y a pas de mélange possible. La cour du pharaon, c'est le monde. Les fils d'Israël, c'est le peuple de Dieu. La providence, pourrait-on dire, l'a placé là, à la cour du pharaon. Ce sont les choses du monde, il refuse. Et il fait un choix. Il choisit. Et que choisit-il? Il choisit d'être plutôt dans la friction avec le peuple de Dieu que de jouir pour un temps des délices du péché. Ah, voilà à quoi conduit le monde. Facilité, satisfaction pour la chair, délices du péché. De l'autre côté, le chemin de Dieu, un chemin semé d'affliction. C'est par beaucoup d'affliction, disaient Paul et Barnabas, au sein de l'Asie, c'est par beaucoup d'affliction qu'il vous faut entrer dans le royaume de Dieu. D'un côté, le chemin facile, mais ce sont les délices du péché. De l'autre côté, le chemin de la sainteté, il est semé d'affliction. Les deux choses pesées dans la balance, Moïse choisit, dans une sainte détermination, l'affliction avec le peuple de Dieu. Il a refusé les délices du péché. Ce choix résulte d'une estime. Ce choix résulte d'une appréciation. Nous avons déjà vu Sarah estimant. Nous avons déjà vu Abraham estimant. L'une estimait la fidélité de Dieu. L'autre estimait sa puissance en résurrection. Et voici maintenant Moïse qui porte son estimation sur quelque chose que nous ne serons jamais portés à choisir nous-mêmes selon nos propres pensées. Il estime l'opprobre du Christ. Il l'estime comme un trésor. Il l'estime comme un trésor plus grand que toutes les richesses de l'Égypte. Et c'est l'opprobre du Christ. Et l'opprobre, qu'est-ce? L'opprobre, c'est la honte, mêlée de réprobation. La honte, c'est le chemin où l'on courbera la tête, sous les railleries et sous l'hostilité. L'opprobre, ce fut le chemin du Christ. Le chemin du Christ, de façon suprême, Ah, c'est de lui, dans l'esprit prophétique, qu'au psaume 69, nous voyons, l'opprobre m'a brisé le cœur. Qui a connu l'opprobre à un tel degré? C'est le chemin qui nous appelle à suivre à sa suite. L'opprobre, il l'a connu tout le long de sa route, oui, mais il l'a connu de façon suprême à la croix. Et c'est le chemin auquel il nous invite. Prendre notre croix et le suivre. L'opprobre du Christ. Un trésor. Ah, si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui, dit l'apôtre Paul. Être mêlé à Christ dans son opprobre, dans sa réjection, dans son humiliation, dans la réprobation dont il est l'objet de la part des hommes, lié à lui, ainsi, dans le temps présent, notre lien avec lui ne peut avoir un autre caractère. Mais il y a la rémunération. Il regardait à la rémunération. Il regardait à l'avenir. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. On l'a dit ce matin. Ce n'est pas cette rémunération qui est le mobile de nos cœurs, mais elle est la sanction que Dieu se plaît à donner à ce qui est fait par amour pour lui. Et c'est là le mobile du chrétien, le connaître lui. Et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Le connaître lui, lié à lui, bientôt dans la gloire pour toujours, lié avec lui sur la terre, dans ce chemin, l'opprobre de Christ.
Ce premier paragraphe du verset 17 au verset 22, et puis le paragraphe que nous avons à partir du verset 23, nous trouvons d'un côté la foi qui a la pensée qui discerne la pensée de Dieu, qui a affaire avec Dieu et qui sait agir au moment convenable pour Dieu et avec Dieu en ayant l'intelligence des pensées de Dieu au sujet d'un ami que la foi discerne. Parce que le propre de la foi, l'action de la foi, c'est de rendre comme présentes les choses à venir et rendre visibles les choses invisibles. Et c'est ce que nous trouvons là, combien Dieu est honoré par cela. Dites-moi sur le mont Morija, quelle gloire pour Dieu. Je ne parle pas de l'acte d'Abraham. Et je parle de la gloire de Dieu. C'est Dieu qui veut éprouver Abraham. Pourquoi? Pour qu'il soit honoré par cette foi qu'il a placée dans ce cœur et qu'il a éprouvée juste à ce moment-là. Quand ainsi Abraham offre son fils, il n'est arrêté qu'au dernier moment. C'est comme s'il le recevait d'entre les morts. Il n'y a que Dieu qui pouvait l'arrêter. Que déclare, par cet acte, que déclare Abraham, Dieu est tout pour moi. Dieu est tout pour moi. Il y avait là un problème qui se posait pour lui. Sur Isaac, on faisait toutes les promesses, et puis voilà qu'il fallait donc l'offrir. Mais pour la foi, il savait que Dieu interviendrait. Mais maintenant, dans ce paragraphe, nous avons ceci, c'est que le chemin de la foi trouvera toujours de l'opposition dans ce monde. Toujours, toujours. Le chemin de la foi n'est jamais un chemin facile. Le chemin de la foi sera semé d'obstacles, toujours des obstacles. Et qui c'est qui les place? Notre terrible ennemi, Satan. J'attends toujours. Nous le voyons dans ce premier cas, pour Moïse, pour l'enfant, pour Moïse, étant né, fut caché 3 mois par ses parents. C'est Satan qui se déguise, pourrait dire, en lion rugissant. Il fallait mettre à mort tout fils mâle qui naîtrait. C'était l'ordre du pharaon. C'était la puissance de Satan qui était là, justement, pour contrecarrer, pour si possible, la vie de la foi triomphe, la foi victorieuse. La foi est toujours victorieuse. Si nous ne remportons pas la victoire, c'est que nous manquons de foi. La foi est victorieuse, pourquoi? Parce qu'elle s'appuie sur Dieu. C'est remarquable de voir cette, comment dirais-je, cette tranquillité, cette confiance de ses parents devant pourtant une déclaration si solennelle du pharaon. Ils cachèrent l'enfant pendant 3 mois. Parce qu'il avait vu qu'il était divinement beau. Et puis Satan, quand il a échoué d'un côté, il se présente d'une autre manière. Et d'une subtilité toujours très dangereuse. Voilà que Moïse est élevé à la cour du pharaon. Il a ce titre de fils du pharaon. Alors, mais quelle place merveilleuse pour être ainsi, s'occuper du peuple d'Israël et pour lui être en aide et pour le secourir. Dans le... Voilà, mais c'était pas le chemin de la foi. C'était pas le chemin de la foi. La foi s'associe toujours au peuple de Dieu. Et si Moïse était resté au corps du pharaon, le peuple serait resté en Égypte. Et c'était pas la pensée de Dieu de laisser son peuple en Égypte. Il fallait qu'il quitte l'Égypte. Et alors, nous avons ici, justement, que la foi, c'est discerner la pensée de Dieu. Quand est-ce qu'ainsi Moïse s'attache au peuple de Dieu? Quel était l'état de ce peuple quand Moïse s'attache à lui? Il était tombé dans l'idolâtrie. C'était un peuple ainsi qui était là sous l'esclavage de Satan, du pharaon, c'est de Satan, et c'était un peuple affligé. La foi de Moïse lie ce peuple aux promesses de Dieu, aux promesses de l'Éternel. Et elle sait voir ainsi là les promesses que Dieu a faites, et elle sait s'appuyer sur elles, et alors il vaut mieux. Ainsi, quitter ce cours de pharaon et m'associer à ce peuple, car je suis là par là, dans le courant des pensées de Dieu. Une estimation. Tout dépend d'estimation de ce que l'on suit. Tout dépend de l'objet que l'on a. Tout dépend de ce que, vers ce quoi notre cœur trouve. Dirigé, tendu. Pourquoi l'apôtre Paul estime tout ce qu'il avait comme homme comme des ordures? Pourquoi l'estimait-il ainsi? À cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, son sauveur. Et alors, il estimait toutes ces choses-là comme des ordures. Et ici, nous voyons Moïse ainsi estimer l'opprobre du Christ un plus grand trésor que les richesses d'Égypte, car il regardait à la rémunération. Il regardait à la rémunération. Pour nous, c'est très important la façon dont nous pouvons estimer les choses, et nous avons bien besoin de rester près du Seigneur, de rester dans la dépendance du Seigneur pour pouvoir estimer les choses comme lui les estime. Et nous pouvoir ainsi discerner le chemin de la foi à travers tant de difficultés qui peuvent se présenter devant nous. Nous avons dans ce paragraphe l'énergie de la foi.
Voilà donc Moïse, et qui ne s'est pas laissé prendre, pourrions-nous dire, au piège l'ennemi. Il a fait l'estimation selon Dieu, et il ne craint pas la colère du roi. Et il quitte l'Égypte, et il entraîne le peuple à sa suite. Mais il fallait que tout soit bien en règle avec Dieu. Or, ce peuple, on vient de le dire, c'était un peuple idolâtre. Il était tombé dans l'idolâtrie en Égypte. C'était un peuple de pécheurs, comme les autres hommes de la terre. Moïse avait affaire avec Dieu. Il fallait que ce peuple, il avait estimé ce peuple le peuple de Dieu. Et il fallait que tout soit réglé. Et nous avons là la mention de cette Pâque. Sous des termes qui nous font réfléchir, par la foi, il a fait la Pâque et l'aspersion du sang afin que le destructeur des premiers-nés ne les touchât pas. L'acte de foi est attribué ici à Moïse. C'est lui qui fait la Pâque. Il fallait que chaque Israélite fasse la Pâque. Il fallait que chaque maison d'Israélite soit aspergée du sang sur l'encadrement de la porte. Et c'était quelque chose d'individuel. L'ordre était donné par Moïse. Il montre le chemin au peuple. Le peuple se soumet, croit. Il y a un acte de foi qui n'est pas rien rappelé là. L'acte de foi de tout un peuple qui se met sous l'aspersion du sang. Ah, malheur à l'Israélite qui, n'ayant pas cru, aurait pensé pouvoir se dispenser de mettre le sang sur l'encadrement de la porte. L'ange exterminateur aurait frappé chez lui comme chez les Égyptiens. Mais voilà tout un peuple qui, par la foi du conducteur, se place sous l'efficace du sang. Et les droits de Dieu en justice sont satisfaits. Nous sommes obligés d'aller vite. Voilà le passage à la mer Rouge. Ici, c'est le peuple tout entier. La foi est attribuée au peuple tout entier. Par la foi, ils traversèrent la mer Rouge comme une terre sèche, ce que les Égyptiens ayant essayé, ils furent engloutis. Connaissons la scène. Devant eux, c'est la mort. Une mer infranchissable. Derrière eux, c'est la mort. L'ennemi qui les poursuit. Le chemin s'ouvre par l'opération de la puissance de Dieu. La verge de Moïse ouvre un chemin à travers la mer Rouge. La puissance de Dieu au service de la foi. Et par la foi, ils ont. On voit tout un peuple animé de la même foi, s'engager sur ce chemin jusque-là, qui jusque-là n'a jamais été foulé au travers d'une mer, jusque sur le rivage de la résurrection. Le passage à travers la mort par l'énergie de la foi. Et de l'autre côté. Et de l'autre côté, les vaines tentatives d'un peuple sans foi, les Égyptiens, la mer. Et c'est pour eux le jugement, ils sont engloutis. Et de l'autre côté de la mer Rouge, le peuple, délivré de son ennemi, peut chanter à l'Éternel. Il a échappé à la Pâque, à la condamnation que son état de péché faisait peser sur lui. Il a échappé à la mer Rouge, à la puissance ennemie. Voilà un peuple pour Dieu. Les 40 années du désert s'ouvrent devant lui. Aucune mention n'en est faite ici. On a posé la question, mais il y avait des hommes de foi là. Quand on pense aux hommes de foi énergiques, se présente devant nous la figure d'un Caleb, par exemple. Il n'est pas mentionné. Pas un Caleb, pas un Josué. Le désert est passé sous silence. Ce que nous avons ici, On l'a dit tout à l'heure, et je crois à plusieurs reprises, ce ne sont pas des hommes de foi cités en exemple. C'est la foi, l'opération de la foi. Et que fait la foi? Que fait la puissance de Dieu? Elle prend un peuple délivré de la puissance ennemie et elle l'introduit en Canaan. Et toutes les expériences du désert sont là passées sous silence. Non pas qu'elles n'ont pas leur réalité, mais elles n'ont pas leur place là. Là où l'Esprit de Dieu met devant nous la puissance de Dieu opérant par la foi. Et le peuple entre au pays de Canaan. Il n'est pas question non plus de la traversée du Jourdain. Cette participation à la mort du Christ. Directement, nous voyons le peuple, après avoir passé la mer Rouge, introduit là, dans le pays de Canaan. Mais ayant de nouveau affaire et toujours avec l'ennemi. Voilà Jéricho. Nous savons comment tombent les murs de Jéricho. Par une manifestation d'obéissance extraordinaire. On n'a jamais vu le combat pareil. Une armée qui se contente de faire la procession autour de la ville en sonnant du corps. Mais par la foi, les murailles de Jéricho tombèrent. Par la foi, les murs de Jéricho tombèrent. Après qu'on a fait le tour 7 jours durant, l'obéissance, la foi. Il y avait dans cette Jéricho maudite un objet de la grâce de Dieu. Qu'était-elle de plus que les autres habitants de Jéricho? Ah, nous pourrions dire qu'elle était bien au-dessous. Une mauvaise femme. C'est ce que la grâce choisit. Et la grâce de Dieu met la foi au cœur de cette femme. Elle reçoit les espions en paix. Elle est éclairée. Elle se met du côté du peuple de Dieu. Et là pour elle le salut. Quel choix! Nous sommes arrêtés étonnés là, par les choix de l'Esprit de Dieu dans ce chapitre. Quel choix! Une Sarah incrédule, une rage. Ah, c'est que Dieu accorde ce don de la foi, selon les richesses de sa grâce, selon tout son libre don. Il choisit ce que l'homme n'aurait pas choisi, et il laisse de côté ceux qui ont l'apparence. Et Rahab, la prostituée, elle ne périt pas. Elle est introduite dans le peuple de Dieu. Elle fait partie de la lignée du Messie. Elle est, je crois, la seule femme, peut-être, de l'Ancien Testament, à être nommée aussi souvent dans le Nouveau.
Introduction de la Bible que nous avons entre les mains. Le désert n'est pas selon les conseils de Dieu, mais selon ses voies. Ce qu'il y a de plus admirable, c'est que, après avoir entendu et lu dans un psaume, pendant 40 années, j'ai eu cette génération d'égout, où nous retrouvons les murmures, la révolte et tout, la convoitise, eh bien, c'est l'Éternel qui triomphe et qui fait aboutir ses promesses. Après 40 années, Josué et Caleb sont entrés et les enfants des incrédules sont entrés dans le pays. La manne qui est appelée le blé des cieux, c'est Christ dans son humiliation. Le Seigneur se présente ensuite comme le grain de blé qui meurt. Si le grain de blé tombant en terre ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ensuite, lorsque les Israélites sont entrés, ils ont mangé le vieux blé du pays. Le grain rôti, c'est un Christ ressuscité. c'est la nourriture du croyant. Un Christ dans son humiliation, un Christ qui meurt pour nous, un Christ ressuscité et assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux.
Césaire ainsi n'est pas en effet dans le conseil de Dieu, mais il est dans ses lois. Et quand nous lisons le chapitre 8 du livre des Deutéronomes, nous voyons qu'est-ce que l'on apprend dans le désert. Qu'est-ce que le peuple a appris dans le désert. Qu'est-ce que nous apprenons dans notre traversée dans ce monde, avant que nous ayons atteint notre cité, notre but. Si nous résumons, si nous regardons un peu de près dans nos vies, et quand on a déjà fait un bout de chemin, on aperçoit, on discerne que Dieu nous a appris deux choses indispensables à connaître. C'est ce que nous trouvons dans le chapitre 8, particulièrement le Deutéronome. Nous apprenons à nous connaître nous-mêmes. Nous-mêmes. Dieu nous connaît à fond. Mais c'est nous qui ne nous connaissons pas. Satan nous connaît à fond. Mais c'est nous qui nous connaissons mal. Et nous avons bien besoin que Dieu nous fasse faire cette connaissance. Parce que plus nous entrerons dans la connaissance de ce que nous sommes nous-mêmes, et plus nous pourrons saisir la grandeur, la richesse de la grâce qui s'est occupée d'être telle que nous. Et puis il n'y a pas seulement ce côté-là. L'autre côté, c'est que Dieu veut se faire connaître à nous. Nous connaissons notre propre cœur et de l'autre côté, nous connaissons le cœur de Dieu, le cœur ainsi rempli d'amour pour nous. Ici, la foi qui nous est présentée, c'est la foi au moyen que Dieu emploie pour délivrer son peuple et pour l'amener en Canaan. C'est les moyens de Dieu, c'est pas les moyens de l'homme. L'homme n'aurait jamais employé de tels moyens pour faire tomber le mur de Jéricho. On aurait fait des plans, on se serait armé. L'homme n'aurait jamais pensé que pour mettre le peuple à l'abri, il faille mettre un peu de sang sur le linteau et les poteaux des portes. C'est le moyen de Dieu. Et c'est là, la foi saisit ses moyens de Dieu. Alors, il n'a pas hésité. Il a égorgé l'anneau. Ils ont égorgé la paille sur l'anneau et ils ont mis le sang pour le linteau, sur le linteau et le poteau des portes. Dans ce passage, la mère, il fallait la foi. Il fallait pour s'avancer là, au milieu de ses eaux. Elle s'ouvrait au fur et à mesure que le peuple avançait. Il fallait faire la foi pour faire le premier pas, il fallait faire la foi pour faire le second pas. On s'appuyait sur le moyen que Dieu avait employé. Et c'est là la foi. Naturellement, l'homme charnel ne veut s'engager dans un tel chemin, mais jamais, il ne va pas loin. Vous savez bien ce que c'est que le jeune homme dans l'Évangile. Il a voulu suivre le Seigneur dans ce chemin-là. Il menait le Seigneur à la croix, il n'est pas allé loin. Sa nullité est apparue tout de suite. La chair ne va pas loin dans ce chemin-là. Et c'est ainsi que la foi se saisit et s'appuie sur les moyens que Dieu emploie.
Mais le temps nous manquera à nous aussi si nous voulions disserter sur chacun des noms qui sont donnés ici ou des actions de puissance et de délivrance produites par la foi. Il y a là autant de sujets de méditation sur lesquels nous pourrons revenir. Gédéon était le plus faible, le plus petit dans la maison de son père. de son milieu le plus pauvre Manassé. Dieu limite son armée à 300 hommes pour que la victoire soit de Dieu et non de l'homme. Nous sommes surpris de voir Barak. C'est une femme qui le mène à la victoire. C'est une autre femme qui le défait de son ennemi. Mais Dieu relève ce que lui-même a donné à son peuple par la faible foi d'un de ses conducteurs. Samson, Jephté, David. David, au temps de sa réjection, sans doute. Mais David, quand il errait sur les montagnes, David, peut-être déjà, dans son enfance, dans sa lutte contre l'ours et le lion, la foi est l'apanage de tous les croyants, la foi pour remporter des victoires chez un tout jeune croyant. Et les plus jeunes parmi nous ici saisissent le son pour eux-mêmes. Ils sont appelés à la vie de la foi. Samuel, il est parmi ceux qui invoquent l'Éternel. Aussi, Abraham est là comme le type des hommes de foi. Samuel est comme le type des hommes de prière. Mais la prière, qu'est-ce? Sinon, l'expression de la foi qui s'adresse à Dieu. Dieu opère des merveilles. Eh bien, nous ne pouvons pas nous arrêter. Il y a tant de choses merveilleuses dans ces quelques versets. Nous arrêtons cependant sur les femmes qui reçoivent leur mort par la résurrection. Elles ont leur place là. Nous avons vu une Sarah, nous avons vu une Rahab, et nous trouvons là une veuve de Sarepta. Il y avait beaucoup de veuves en Israël, au temps des villes prophètes, et c'est cette Cananéenne qui a cet insigne honneur de voir la résurrection de son fils, et son exemple consigné là. Et il y a la Sunamite, exemple de foi, ainsi. Elle se discerne de façon plus effacée chez la veuve de Sidon. Quel exemple chez la Sunamite. Quel attachement au prophète, à l'homme de Dieu. Il faut que l'homme de Dieu vienne. Ce qu'elle veut, c'est lui. Le serviteur avec le bâton, tout cela ne suffit pas. Ce qu'elle veut, c'est Élisée lui-même. La foi insistante dans sa demande et la réponse. La résurrection des morts. La liste est longue. Les noms ne sont pas donnés. Mais on voit la multitude de témoins qui sont là dans la souffrance, dans la persécution. Ce ne sont plus, dans les derniers versets, les victoires éclatantes remportées, victoires éclatantes aux yeux des hommes, mais la victoire de la foi dans la patience, la souffrance, l'obéissance. Ah, c'est bien l'opprobre du Christ, partagé. Et si toutes ces expressions s'appliquent à ces saints de l'Ancien Testament, plus exactement à ces saints avant la venue du Christ, dans les temps même qui ne sont pas relatés dans les Écritures, ces mêmes expressions trouvent leur application dans la multitude des témoins qui ont suivi. Égorgés par l'épée, errant çà et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dans le besoin, affligés, maltraités, dont le monde n'était pas digne, tels étaient les témoins d'Israël, tels les témoins de Christ dans les temps de persécution qui nous ont précédés. Mais ce qui nous est dit là, si nous disons que les mêmes expressions peuvent s'appliquer, en effet, aux témoins de Christ, ce qui nous est dit là, n'iront pas, n'est-ce pas, c'est appliqué au sein de l'Ancien Testament. Il s'agit de la multitude de témoins précédents cet Épître aux Hébreux, une multitude de témoins. Et tout ceci, ayant reçu témoignage par la foi, n'ont pas reçu ce qui avait été promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas à la perfection en nous. Ils sont morts dans la foi, mais alors une foi vaine ? Ah non pas ! Ce qu'ils attendaient, c'était autre chose que la bénédiction sur la terre. Leur part, c'était Christ, c'était Dieu lui-même. C'était Dieu qui était leur part. Ils étaient là réalisant ce caractère de l'homme parfait. Dieu est mon partage pour toujours. Dieu est la portion de mon héritage et de ma coupe. La portion, l'héritage de leur coupe. Ce n'était pas tant le pays promis, ce n'était pas les délivrances, ce n'était pas la victoire sur les étrangers. Leur portion, c'était Dieu lui-même. Et ils sont morts dans la foi. Ils ont reçu témoignage. Ils ont reçu témoignage en eux-mêmes que leur foi n'était pas vaine, que ce qu'ils avaient saisi, c'était bien le Dieu vivant. Et c'est dans cette pleine assurance de foi, d'attente en Dieu, ils ont terminé leur pèlerinage terrestre. Et ce qu'ils attendaient, ce qu'ils attendaient sera réalisé de façon certaine. Dieu leur accordera leur attente. Ah, ils ont attendu la cité qui a les fondements. Ils y entreront. Ils auront une part excellente. Mais auparavant, avant qu'ils entrent dans cette part excellente que leur foi a attendue et que Dieu leur donnera, Dieu avait en vue un autre peuple. Nous, dit l'auteur de l'Épître, nous qui allons entrer bientôt aussi dans toute l'étendue des bénédictions célestes. Ils parviendront à la perfection. Et les différents ordres. Jean-Baptiste, qui est à la limite des deux économies, mais qui se rattache à la lignée des saints de l'Ancien Testament, et qui de notre côté a eu ce privilège insigne de voir celui que tous ont attendu, estimait que déjà sa joie était accomplie. Il considérait qu'il y avait une part toute particulière, il y avait la part de l'épouse. Celui qui a l'épouse, le Christ, a l'épouse. Des relations célestes, en marge desquelles il se trouvait, pour ainsi dire. Mais lui, l'ami de l'épouse, sa joie était accomplie. Et la joie des saints de l'Ancien Testament sera une joie accomplie. Abraham, Isaac, Jacob, et tous ces saints, et tous ceux qui endurèrent la tribulation, les persécutions et de grandes souffrances, préférant une meilleure résurrection, tout cela auront la réponse à leur foi et entreront dans la perfection. Et pour nous, la perfection, pour ainsi dire, qui nous est réservée, est quelque chose de bien plus excellent, parce que ce sont des relations d'une intimité beaucoup plus grande, autre chose que la relation de ces saints, l'homme de Dieu, avec leur Dieu. Pour nous, les relations éternelles, de proximité, avec d'un côté celui que maintenant nous appelons Père, et avec celui qui est pour nous, qui sera pour l'épouse, l'époux, et pour qui est pour chacun les rachetés, le bien-aimé.
La perfection est si naturellement la gloire. Et les saints de l'Ancien Testament parviendront comme nous à la gloire. Mais ce qui est déjà pour nous meilleur que pour ces saints-là, dont nous n'atteignons pas à l'achever quand il s'agit de la foi, nous n'atteignons pas cela. Alors, c'est nous qui sommes bien plus complets et qui avons déjà, par la foi, dans un sens, reçu ces choses meilleures. Nous avons quoi? Nous avons Christ dans la gloire. Et il ne l'avait pas. Nous sommes de l'autre côté de la croix. Il y a un homme dans la gloire. Et nous sommes unis à lui. Et nous avons le Saint-Esprit qui nous unit les uns aux autres et qui nous unit à Christ. Sans parler de la place particulière que l'Église occupera toujours, toujours. Si vous lisez les Écritures, dans toutes les économies, l'Église occupe une place toute particulière dans les desseins de Dieu. Eh bien, ce qui nous humilie, ce qui doit nous humilier, ce qui doit nous exercer quand de tels exemples nous sont donnés, voilà des hommes qui étaient bien, bien, étaient loin d'être bénis comme nous le sommes, nous, maintenant. Regardez avec quelle foi ils ont marché, combien ils ont honoré. Et dans cette énumération qu'on a fait dans ce chapitre, dans ces versets-là, c'était des temps très difficiles. Pourquoi? C'était des temps où le peuple était professant, un peuple professant. Et la foi a beaucoup plus de peine de se frayer un chemin à travers une chrétienté professante. Et dans une chrétienté si professante, nous pouvons voir que la foi est souvent obscur. Dieu sait. Dieu sait les Éphésiens avec quelle foi ils peuvent marcher au milieu des circonstances d'une chrétienté qui va s'arrêter. Et nous avons ainsi ce chose remarquable, c'est que Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous afin qu'il ne parvienne pas à la perfection sans nous. Dans un sens, quand le Seigneur viendra, nous ne devrions pas dire que les vœux seront enlevés. C'est limité ce qui se passera. Parce que tous les saints de l'Ancien Testament, quand le Seigneur viendra, s'en iront aussi. Ils s'en iront aussi, partiront avec nous. Quand le Seigneur viendra, il appellera tous les saints de l'Ancien Testament, comme les saints de la nouvelle économie, et nous partirons tous ensemble. Quand est-ce que nous voyons la place particulière de l'Église? À la veille du moment où Jésus va venir prendre en main son royaume. Quand la fausse Église est détruite, alors voilà que sont proclamées dans le ciel les noces de l'agneau. Elle prend sa place. Voilà les choses meilleures pour nous. Elle prend sa place et alors, quand les noces ont lieu, le ciel s'ouvre et le Seigneur entre dans son règne, car il ne peut pas entrer dans son règne sans son épouse. Mais nous n'attendons pas ces temps-là. Maintenant, nous avons déjà ces choses meilleures. Et en résistant, c'est un fait remarquable, c'est que nous avons Christ dans la gloire. Et comme le paragraphe suivant nous le montrera, il montrera un Christ ainsi, assis, là-haut, à la droite de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit pour nous ainsi nous attacher, nous lier à un Christ glorieux. Eh bien, quelle marche la nôtre? Quand justement une telle marche, une telle fidélité, une telle souffrance supportée là, eh bien, alors que nos temps sont si faciles. Ah, combien il faut, nous avons dû se méfier et à demander à Dieu, ainsi, qu'il nous garde dans ces temps-là où nous risquons justement de nous endormir spirituellement.
Alors, qu'avons-nous à faire ? Courir avec patience la course qui est devant nous. Courir la course, cela nous donne l'image d'un élan, continu, soutenu. Et puis, il y a comme un correctif, c'est avec patience. La course risque d'être ralenti par bien des choses. L'élan vers Christ risque parfois d'être brisé. Et nous sommes exhortés à cette vertu si rare, si difficile, la patience. Il y a peut-être peu de vertus chrétiennes à laquelle nous soyons exhortés de façon aussi fréquente dans le Nouveau Testament. Et c'est ce qui risque de plus nous manquer, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Il ne s'agit pas de fournir une étape brillante et puis de s'asseoir sous le genêt comme Élie. Il s'agit de fournir, non pas même fournir la course, mais courir la course. Courons la course. Une course que nous ne nous traçons pas à nous-mêmes, c'est la course qui est devant nous. C'est la course que le Seigneur ouvre sous nos pieds. Il ne nous donne pas de voir tout ce qu'il y a à l'avance, tout ce qu'il y a dans la course. C'est comme une course à travers une vallée que le brouillard le cache. Mais par-dessus le brouillard, il y a le but. Ce qui est clair à nos yeux, c'est le but. Et quant aux détails de la course à courir, Dieu nous les montrera au fur et à mesure. Et nous avons à courir avec patience. Dans la course, deux choses sont présentées ici comme pouvant nous gêner. Le fardeau, le souci, les peines, nous savons assez ce que c'est. Ah, c'est précisément le contraire de la foi en activité, le souci que l'on se donne, toutes les pensées que font naître en nous les difficultés et quelquefois même les éventualités du chemin. Un chrétien disait: nous faisons souvent beaucoup de soucis pour des choses qui n'arriveront jamais. Eh bien, rejetant sur lui tout votre souci, car il pense soin de vous. Eh bien ici, rejetant tout fardeau. N'avons pas spécialement rejetant sur lui, mais rejetant tout fardeau. La course de la foi n'est pas une course d'inquiétude. C'est une course de sérénité, de sécurité, de certitude. Mais il y a autre chose, il y a le péché. Nous n'avons pas précisément ici le péché, tendance naturelle de notre chair. Et pourtant, cela a une grande place, hélas, en nous. Mais il s'agit là plus particulièrement des tentations extérieures, du péché qui nous enveloppe. Cela a été vrai de tout temps. De tout temps, la scène qui nous a entourés a été une scène dangereuse, une scène de mal, et comme le contact du mal se souvient. Mais que dire de nos jours? Mais chaque année, on voit grandir le mal autour de nous. Il n'y a plus aucune retenue. Ah, comme il nous enveloppe, ce péché. Mais dans quelle scène nous cheminons? Et ce sont les filets de Satan qui risquent et nous envelopper. Dans ce monde, l'estimation des choses a complètement changé. Ce qui, il y a peu de temps encore, était réprouvé comme étant mal, aujourd'hui est toléré et quelquefois appelé bien. Et comme le chrétien a de la peine à garder au milieu d'un tel état de choses une conscience délicate, c'est cela, la perception des choses selon Dieu. Pourquoi une telle évolution vers le mal dans le monde qui nous entoure? C'est que les hommes n'ont de règles qu'eux-mêmes. Et nous avons une règle invariable, une règle fixe, c'est la parole de Dieu. C'est à la parole de Dieu que tout se juge. Et nous avons à y être attentifs, et plus que jamais. Et plus nous sommes mêlés au monde, plus cet enveloppement du péché est dangereux. Et nous sommes pleins d'une grande sympathie pour toute la chère jeunesse qui se trouve par le fait même des choses mêlée à ce monde et à ce monde mauvais plus que nous l'avons été et beaucoup plus que nous le sommes maintenant et qui sont là exposés à cet enveloppement du péché. Comment y échapperons-nous? Ah, c'est toujours la même ressource. La foi regarde. Elle regarde non pas à ce qui nous entoure, aux choses visibles. Elle les juge selon la pensée de Dieu. Elle les réprouve selon la réprobation de Dieu. Et elle s'attache à, ou bien, aux choses en haut. Ah oui. Mais par-dessus tout. Mais par-dessus tout à une personne. À celui qui nous est présenté là dans les deux versets suivants, et que nous sommes exhortés à considérer, sur lesquels nous avons à fixer les yeux. Il a fourni la course. Le péché, il en avait une autre perception que nous. C'est au milieu de quoi nous cheminons indifférents, le toucher lui dans sa sainteté intrinsèque. C'était pour lui le voisinage insupportable du péché, l'emprise de Satan sur l'âme. Comment a-t-il cheminé? Fixant les yeux sur Jésus, considérons-le. Un sujet à approfondir encore.
La parole de Dieu nous exhorte à détourner nos regards des choses visibles, des choses, des vanités mensongères de la terre, pour les fixer sur un seul et unique objet qui est Jésus. Jésus considéré ici comme le chef et le consommateur de la foi. Le terme chef a deux sens, et nous pouvons mieux comprendre ce sens lorsque nous nous souvenons qu'il convenait pour Dieu, à cause de qui et par qui sont toutes choses, que, amenant plusieurs fils à la gloire, il consomma le chef de leur salut par des souffrances. C'est le même terme. C'est celui qui commence et qui marche à la tête. Pour nous amener à la gloire, il fallait que Jésus soit notre précurseur. Nous retrouvons ce même terme dans le livre des Actes au chapitre 3, verset 15. Mais le mot aussi a le sens d'auteur, l'auteur de notre salut. Ô bien-aimé, nous pouvons nous arrêter un instant sur ce qu'a été la carrière du Seigneur Jésus. De tous les témoins, la nuée de témoins disparaît, il ne reste que le témoin fidèle et véritable. Et nos yeux doivent fixer ce témoin-là. Ils doivent le fixer parce que il nous est dit dans ce début de l'épître aux Hébreux, et le terme nous arrive comme cela, « Je me confierai en lui ». C'est cette confiance du Seigneur envers son Dieu. Cette confiance inaltérable, qui a été sa part. De sorte que l'apôtre Paul peut dire à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ, non pas Jésus-Christ crucifié. C'était ce que l'apôtre Paul annonçait aux Corinthiens. Mais souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité, celui qui est arrivé, celui qui a fourni la course tout à la gloire de Dieu. Alors, fixant nos yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, l'expression « je me confierai en lui » se trouve dans le prophète Ésaïe, chapitre 8, verset 17. « Je m'attendrai à lui, à l'Éternel. » Et dans les pires moments où le Seigneur Jésus était sur la croix, parce que c'est de la croix qu'il est question, nous parlerons tout à l'heure des citations où le Seigneur s'est assis, mais lorsqu'il est question de la croix, dans les moments où le Seigneur a enduré cette souffrance incompréhensible pour nous, alors que le Seigneur était abandonné de son Dieu parce qu'il était fait péché, parce que sur la croix, il endurait la condamnation du péché dans sa chair. Parce que là, il subissait le châtiment qui devait nous atteindre, le châtiment terrible qui nous apporte la paix tombait sur lui. La confiance du Seigneur était inaltérable. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il revendique son Dieu dans cette solitude. Et le psaume 22 nous dit prophétiquement ce que ça a été pour son cœur. « Nos pères, Abraham y compris, et les autres, se sont confiés en toi. Ils se sont confiés en toi, ils ont crié à toi. » Et Dieu leur a répondu, « mais moi, je crie de jour. » Point de repos, point de secours, point de réponse pour le Seigneur sur la croix. Et sur la croix, l'inaltérable confiance du Seigneur est demeurée la même. C'est pourquoi nous trouvons dans ce même psaume la réponse de Dieu. Tu m'as répondu d'entre les cornes des buffles, c'est la résurrection. Ô chers amis, nos cœurs ne sont-ils pas touchés par cet exemple du Seigneur qui nous a aimés jusqu'à la mort? Le Seigneur a choisi la mort, mais la mort qui était réservée aux brigands. Cette mort volontaire, à cause de ceci le Père m'aime, c'est que je laisse ma vie afin que je la reprenne. Personne ne me l'ôte, je la laisse de moi-même, j'ai le pouvoir de la laisser, j'ai le pouvoir de la reprendre. Et comme il ne s'est jamais départi de la place de serviteur qu'il avait prise, j'ai reçu ce commandement de mon Père. Le Seigneur, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte. Nous parlions tout à l'heure quatre fois, sauf erreur de l'expression que nous trouvons. Le Seigneur s'est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux, après avoir fait par lui-même la purification des péchés. Dans le deuxième cas, il s'est assis à la droite de Dieu comme sacrificateur. La troisième fois, nous le trouvons dans ce passage, au chapitre 8, comme le parfait sacrifice pour le péché, chapitre 10, pardon, verset 12. Celui-ci, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Ça, c'est la troisième fois. La quatrième fois se trouve ici. Celui qui a enduré la croix, qui a méprisé la honte, est assis à la droite du trône de Dieu. Alors, Dieu ne pouvait faire autrement que de lui dire, en citant dans le psaume que nous avons, au psaume 110, le premier verset, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour marchepied de tes pieds. »
La vie chrétienne, le chemin qui nous conduit là-haut, dans l'éternel repos, est présenté dans les Écritures sous deux côtés, sous le côté de la marche et sur le côté de la course. Quand il s'agit de la marche, c'est la reproduction morale de celui dont nous sommes les témoins. On tient compte de tout pour être fidèle dans cette marche. On ne néglige rien. Il s'agit d'être fidèle à celui qui nous laisse ainsi dans ce monde pour le représenter. Nous devons être des Christ au milieu de ce monde. Ça, c'est là-bas. Mais ici, c'est la course. C'est la course. Qui parle de course, l'apôtre souvent de là-bas, parle d'atteindre un but. Atteindre un but. Alors là, pour atteindre ce but, on rejette tout. Faut tout rejeter. Faut tout rejeter. Parce que la chose essentielle dans la course, il faut que rien ne nous arrête. Rien ne nous entrave. Tout l'effort, tout l'être entier est porté vraiment vers ce but. Christ dans la gloire. Et c'est pourquoi nous trouvons cette expression de rejeter. Jeter le fardeau. En effet, si vous avez un fardeau, vous ne pouvez pas courir. Rejeter le péché, si votre conscience n'est pas en ordre, s'il y a quelque chose qui est sur votre conscience, votre course est ralentie. Forcément. Pour que la course ait toute sa valeur, toute sa puissance, il faut que Christ soit là et soit l'objet. Il faut bien rejeter le fardeau et rejeter le péché qui nous enveloppe si aisément. Que fait le péché? Il réveille en nous des convoitises. Elles sont là, elles dorment. Mais alors nous voyons des choses en nous qui peuvent réveiller ces convoitises. Et comment voulez-vous que si mes convoitises ainsi sont réveillées et si je suis conduit par cela, je ne peux plus courir. Je suis arrêté dans ma course. Je suis arrêté. Et alors on dira, mais comment rejeter c'est, la parole est si simple, rejetant le fardeau et le péché. Il nous paraît, nous, c'est bien des fois difficile. C'est bien des fois difficile. Eh bien, c'est très facile quand on a les yeux fixés sur Jésus. Fixant les yeux sur Jésus, à l'exclusion de tout autre objet. Ce qui peut rendre ainsi le chrétien, ce qui peut rendre la marche difficile ou la course difficile au chrétien, c'est lorsqu'il a un cœur partagé. Un cœur partagé. Un peu de ceci, un peu de cela. Mais quand on a les yeux fixés sur Jésus, quand Jésus est exclusivement le seul objet, quand autrement l'œil est simple, il n'y a rien d'aussi facile quand l'œil est simple. Il n'y a rien d'aussi compliqué quand l'œil n'est pas simple. Mais quand l'œil est simple, la marche est facile. On rejette le fardeau, on rejette le péché qui nous enveloppe si aisément, et c'est vrai. Maintenant, il y a un autre danger dans la course. On fait un petit bout de course, on fait un peu la course. Nous risquons d'être lassés et découragés. Et cela nous arrive. Il faut bien dire, ça nous arrive. Ça arrive. Les difficultés sont là, les obstacles sont là, les choses difficiles se présentent. Eh bien, nous risquons d'être lassés et découragés. Eh bien, quel est leur maître? En quoi pourrons-nous trouver la force nécessaire pour continuer là-haut? C'est dans cette expression très forte, considérer. Considérer. Non pas seulement fixer les messies, c'est considérer. Comme nous trouvons cette expression souvent dans l'Épître aux Hébreux, nous trouvons au chapitre 3 la même chose. Considérer, c'est pas s'arrêter un moment. C'est pas venir prendre un peu un moment un contact avec les Écritures et puis continuer sa route. Ah non, considérer, c'est s'arrêter, c'est sur méditer sur ça, c'est méditer, c'est réfléchir sur ces choses, avoir ça, cette personne devant. Considérer celui qui a rencontré une telle contradiction contre lui-même. L'homme, son intime ami, l'a abandonné. Satan était contre lui. Dieu l'a abandonné et c'est pourquoi il a fait mention de la croix ici. Ce n'est pas tant le côté expiatoire qui est présenté, mais c'est l'obéissance, la foi de celui qui est allé jusque-là à l'abandon de Dieu. Tout était contre lui. Tout tout était contre lui, tout. Il était seul. Et alors il considérait celui qui a enduré une telle contradiction contre lui-même, il ne s'est pas laissé décourager, il a achevé la course. Eh bien, afin que vous ne soyez pas là, étant découragé dans vos âmes. Il n'y a que le Seigneur qui a terminé totalement la course. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Il ne faut pas dire qu'il est le chef et le consommateur de notre foi. Non, non. C'est le chef et le consommateur de la foi. Ces hommes que nous avons remarqués, ils ont été fidèles, ils ont montré la foi dans les circonstances dans lesquelles ils pouvaient se trouver. Quand il fallait mettre le sang sur le linteau des poteaux des portes, et maman, il l'a fait, et bien d'autres choses. Le Seigneur a manifesté la foi en totalité, dans toutes les circonstances. Vous ne pouvez pas vous trouver dans une circonstance dans laquelle, comme saint, dans laquelle le Seigneur ne s'est trouvé, lui, comme l'homme parfait. Comme l'homme parfait. Et c'est là. Veillons. Veillons à ce que l'ennemi ne nous détourne pas d'une telle personne. Que l'ennemi ne nous détourne pas d'un tel objet. Autrement, tout est perdu. Tout est perdu. Vous n'avez pas de force en vous-même. Nous n'avons aucune force en nous-même. Nous ne pouvons absolument pas courir la course qui est proposée par nos propres forces. Nous puisons la force en communion avec le Seigneur. Et retenons ces deux expressions très importantes. Fixons, comme la note dit, à l'exclusion de tout autre chose. Fixons les yeux sur Jésus. C'est remarquable. C'est pas sur le Fils de Dieu. C'est sur Jésus. C'est-à-dire l'homme parfait qui a réalisé entièrement le chemin de la foi, fixant les yeux sur Jésus. Et puis, considérez-le dans tout son chemin, dans toute sa course, depuis ainsi ses premiers pas, jusqu'à ce qu'il soit arrivé là-haut, à la Loire. Et c'est de remarquable aussi de trouver quand même l'expression là. Il est assis à la droite du trône de Dieu. Il n'y avait que cette place, et c'est la seule qui pouvait honorer une telle marche, une telle foi, et Dieu l'a placée là.